Votre Santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Enjeux de Santé. Aujourd'hui, il sera question d'histoire de vie, celle de personnes handicapées devenues parents. Je vous invite à écouter cette émission dans la continuité de celle dédiée au débat sur l'accompagnement sexuel des personnes handicapées, puisqu'il s'agit bien de la condition de possibilité de la parentalité. Pour aborder cette thématique, je reçois donc aujourd'hui Marie-Anne Divet et Magali Guigaud. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous avez collaboré récemment dans un ouvrage, donc « Un parfum de victoire », paru chez Histoire Ordinaire Éditions et accompagné d'un DVD d'une durée d'environ 2 heures qui revient sur les témoignages de Richard Fernandez, infirme moteur cérébral et grand-père à l'énergie débordante, que vous avez pu retrouver, chers auditeurs, dans le dernier hors-série de Place Publique, mais aussi Christine, Fatima et Nicolas, Julien et Camille, Antoine et Maëva, Sylvie, Sandrine, Magali donc, Thérèse, Nathalie, Félicie et Bastien, Maëla, etc., etc. Tous ces témoignages sont réunis dans l'ouvrage « Un parfum de victoire ». Une première question peut-être pour vous, Marie-Anne Divet. Cet ouvrage et ce DVD sont issus d'une démarche qui sont un peu particulières. C'est d'abord une démarche journalistique. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Histoire Ordinaire, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter en quelques mots ce média ?
C'est un site qui a été créé il y a environ 5 ans par... je dirais pas une bande de copains, mais des gens qui se connaissaient, qui étaient à la fois journalistes et non journalistes, et qui voulaient consacrer du temps à parler de notre société sous une forme rarement abordée, qui est celle du portrait. Mmh. Donc nous publions ce site tous les jeudis soirs, et il y a en tête de site un portrait d'un citoyen ou d'une citoyenne ordinaire, mais pas si peu ordinaire que ça, puisque ce sont en général des gens engagés, passionnés, et qui font effectivement des choses extraordinaires, mais qui font partie de ces gens qu'on peut croiser dans la rue, qu'on peut croiser dans des réunions, qui ne font pas les têtes d'affiche des médias, mais qui sont très présents sur le terrain et qui, par leur engagement, permettent peut-être à la société de un petit peu mieux vivre.
Alors sur votre site donc Histoire Ordinaire, on peut lire ceci concernant un parfum de victoire. Mères et pères, jeunes ou grands-parents, vivant avec des handicaps moteurs, sensoriels ou encore intellectuels, chacune et chacun témoigne de son combat, de ses souffrances, de ses bonheurs, de sa capacité à avoir et à élever des enfants, à affronter une société chargée encore de tabous. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut lire à propos de Un parfum de victoire. Pour vous, journaliste, d'où vient cette envie de parler des parents en situation de handicap ?
C'est né en fait d'une rencontre avec Magali, qui est avec nous là en studio. Cette rencontre de Magali, aveugle, en désir d'enfant, puis avec une petite fille, Clara. Et de cette rencontre-là, y a des questions qui sont posées à moi, enfin... comme une citoyenne tout à fait ordinaire, en me disant Magali, moi je suis une ancienne maman, enfin je suis toujours une maman, mais mes enfants sont beaucoup plus, beaucoup plus grands. Et avec Magali, je retrouvais exactement les mêmes questions de maman. Et avec Magali aussi, d'autres types de questions auxquelles Magali... peinait pour pouvoir trouver les réponses, l'aide nécessaire à une situation particulière. Bon, pas particulière en tant que maman, mais particulière parce qu'en situation de handicap, dans certaines situations, pas dans toutes les situations, être en amour avec son enfant, ça c'est toutes les mamans, c'est pas...
Bien sûr, mais oui. Alors, on s'attarde encore un petit moment sur le temps journalistique. Ensuite, je me retournerai vers vous, Magali, pour aborder un peu ce que vous racontez, votre témoignage à l'intérieur de cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage principalement composé de portraits donc, de parents. Est-ce qu'il y a eu un désir peut-être de vous rapprocher de certains professionnels du social, du médico-social ou peut-être même, je ne sais pas, d'universitaires peut-être ?
Voilà. Donc, en fait, le livre est à la fois basé un peu sur un concept... de périmulation, c'est-à-dire nous on s'est dit mais de quelle hauteur, de quel droit est-ce qu'on parlerait de situation de handicap. Donc on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de rendre la parole aux personnes qui sont dans cette situation et qui sont seules habilitées à en parler. Mais également de donner la parole à des professionnels qui accompagnent depuis 10 ans, 20 ans, des personnes en situation de handicap. Ils ne sont pas nombreux, ils sont listés à la fin du livre, il y a un répertoire, des gens qui, presque je dirais, militent pour cette reconnaissance, pour pouvoir lutter contre ce tabou d'accès à la parentalité de personnes en situation de handicap. Et également, on s'est adressé à Eve Gardien, qui est universitaire à Rennes 2, et qui apporte son regard d'expert. Est-ce qu'on va dire expert ? Non, ce n'est pas ce regard-là qu'Eve Gardien a apporté, mais de sa recherche, de cette aussi possibilité de mise en distance qu'on a par rapport à ce sujet de société, qui est pas un énorme, vaste sujet de société, mais qui est quand même un sujet de société qui aborde la question de la parentalité dans sa globalité.
Tout à fait, oui, sachant qu'en plus, dans le milieu de la recherche sur le handicap, la parentalité, ce n'est pas quelque chose qui est souvent abordé. Mmh. On aborde les questions de l'emploi, de l'accès à la santé, etc., mais pas forcément la parentalité. Alors, Magali, je me tourne vers vous. Donc, vous témoignez dans l'ouvrage de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, pour participer à cette aventure avec Histoire Ordinaire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer sur cet ouvrage ?
Bon, déjà, c'est Marianne, parce qu'elle m'a fortement invitée à participer, dans le sens où au départ elle est venue tout simplement à la maison et puis elle me proposait de faire une petite vidéo sur l'arrivée de Clara dans la maison, comment ça se passait les journées avec elle, et puis du coup on a fait la vidéo qui était très bien, qu'on a gardée, et puis voilà, et puis de là du coup c'est parti à reprendre des séquences de cette vidéo pour faire éventuellement autre chose, et on a abouti au livre. Enfin, c'est parti un peu comme ça au départ, je pense.
C'est parti peut-être d'une colère aussi, quand on est allé au service d'aide à la parentalité. Peut-être tu peux expliquer.
Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser quand on est futur parent en situation de handicap, donc, avec le handicap visuel. Et du coup, j'ai pris des contacts avec l'Institut de puériculture de Paris, que j'ai rencontré avec Marianne quelques temps plus tard, l'année d'après, je crois.
C'était en 2012.
Et donc, du coup, on est allé là-bas 2 jours et on s'est aperçu qu'il y avait des choses. Des services proposés par les puéricultrices de la PMI au niveau de l'Institut de puériculture qu'on n'avait pas, nous, en province, quoi, du coup. Et on s'est dit, mais il y aurait des choses à faire parce que les parents en situation de handicap ne sont pas qu'à Paris. Il y en a partout. Et on n'a pas forcément de structure adéquate pour nous recevoir, nous accueillir, nous conseiller par rapport à nos difficultés dans notre situation de handicap, quoi.
Et quelles sont-elles, ces difficultés, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous racontez aussi, finalement, dans ce témoignage, dans cet ouvrage ?
Alors, à la base, moi, c'était par rapport à la préparation des biberons pour ma fille, parce qu'un biberon gradué, c'est bien, mais quand on ne voit pas, il n'y a pas de repères tactiles, il n'y a rien du tout. Donc, pour donner les bonnes doses d'eau de lait, quoi. La poudre, c'est facile à mesurer, vous comptez les mesures, mais l'eau, c'est pas facile. Donc du coup, j'avais contacté moi l'Institut de puériculture qui m'avait conseillé de graduer des seringues de 60 ml et d'aspirer dans un pichet l'eau avec la seringue graduée. Donc du coup, je savais combien je mettais de millilitres dans mon biberon.
On sait aujourd'hui que l'accompagnement des parents, on le disait un peu brièvement tout à l'heure, c'est quelque chose qui a un peu finalement un angle mort aujourd'hui dans la politique publique du handicap. Vous avez eu l'impression que le parent handicapé, il faisait peur quelque part ?
Oh oui, je pense qu'il fait peur. Et puis, l'handicap fait peur, c'est sûr. Mais je ne sais pas si on se met. Enfin, si on essaie pour beaucoup de personnes de se mettre à la place de la personne handicapée, de dire comment je pourrais lui venir en aide, de quoi elle aurait besoin. Je ne pense pas que les questions soient. Ou elles paraissent très peu si elles existent. On regarde des gens, nous, on ne les ressent pas forcément. Et du coup, je pense qu'ils ont peur de se dire, mais comment ça va se passer ? Comment ils vont faire ? C'est pas possible. Peut-être peur, mais juger aussi en même temps.
C'est quelque chose que vous avez observé aussi, Marianne Duvet ?
Tout à fait, oui. Oui, Il y a vraiment un tabou autour de... C'est un petit peu comme si on... quelqu'un qui est en situation de handicap devait forcément donner une naissance à quelqu'un qui va être aussi en situation de handicap.
Comme si c'était héréditaire.
Voilà, alors que bien sûr que non. Enfin, et c'est pas parent... le docteur Amonet qui est venu au colloque organisé par l'université, là, Handicap 2015, au mois de janvier, avait une explication que je trouvais intéressante sur l'idée d'utiliser plutôt situation de handicap que handicapé. C'est vrai que toute personne, je veux dire, à un moment dans sa vie peut être en situation de handicap.
Ça permet de prendre en compte l'environnement dans lequel la personne évolue.
Voilà. C'est, ouais. Et c'est vrai que dans les interviews qu'on a eues, Magali, avec la directrice de l'école, où va Clara maintenant, elle disait, bah, effectivement, quand mes collègues ont su qu'il allait y avoir des parents en situation de handicap, ils ont un petit peu paniqué en se disant, mais comment va-t-on faire, quoi ? Il y a comme une espèce
De barrière.
De barrière, oui. Et comme si la personne en situation de handicap nous renvoyait à notre propre situation. Enfin, et c'est effectivement des choses que dans les différentes interviews, on a ressenties, y compris Julien Tourte et sa femme Camille, qui sont interviewées, enfin, dont on fait le portrait aussi dans le livre. Ils habitent Paris et quand ils sont allés inscrire leur bébé à la crèche et que les personnes de la crèche ont su... Que le couple et le bébé étaient suivis par l'Institut de puériculture qui s'appelle maintenant le SAPPH à Paris. Et ils ont ressenti comme un espèce de soupir de soulagement de la part des professionnels qui étaient là, en se disant, ben, ça y est, le problème du handicap, il est pris en charge ailleurs, donc on n'aura pas à le prendre en charge.
Magali, racontez-nous peut-être un petit peu votre petite fille, quel âge elle a, comment ça se passe au quotidien ?
Donc elle a 4 ans et au quotidien, bah, ça se passe très bien. On est beaucoup dans la communication avec elle. On a toujours parlé à même bébé qu'elle ne comprenait pas forcément tout ce qu'on lui disait, mais... elle a toujours entendu parler, elle aime peut-être parler aussi, donc ça c'est bien. Et du coup, c'est beaucoup d'explications. On est passé beaucoup par ce moyen-là.
Et vous êtes accompagnée au quotidien, vous, en tant que parent, ou vous êtes autonome
Non, moi je suis autonome dans ma vie de maman.
Oui. C'était surtout pour la préparation de l'arrivée du bébé, en fait.
C'était surtout, oui, voilà, pour prendre des repères. Comment je vais faire pour pallier à telle ou telle question. Donc, il y avait les biberons, il y avait l'histoire de la pesée aussi du bébé, parce qu'il fallait l'emmener à la PMI pour la peser. Donc, il s'est avéré que la puéricultrice de la PMI venait à la maison, au tout début, pendant un mois et demi. Et puis, voilà, pour rassurer tout le monde, je pense, aussi bien la PMI que nous.
Mais il faut savoir qu'en Ille-et-Vilaine, on a... quand même cette chance, grâce à des personnes comme l'élu, Madame Massou et Madame Le Guen, docteur Le Guen, de pouvoir avoir des mesures de compensation uniques en France jusqu'à l'âge des 7 ans de l'enfant. Donc les parents en situation de handicap ont une aide après, mais on cette aide-là, et c'est rare. Toi, tu as en fait essayé de mettre en branle, je dirais, une espèce de solidarité au niveau de l'école.
Bah moi, c'était l'accompagnement à l'école qui me posait problème, du coup, parce que pour me déplacer, c'était pas l'idéal, c'était pas évident. Je voulais que ce soit fait en sécurité pour ma fille et pour moi. Et donc, du coup, moi, j'ai fait appel à... J'ai fait un petit prospectus, on va dire, dans les cartables des enfants à l'école où allait ma fille. Et en demandant s'il y avait des gens qui passaient pas loin de chez nous pour prendre ma fille au passage ou aller à l'école, etc. Donc il y a eu, sur 200 flyers distribués, il y a eu 2 réponses. Et le reste, ce sont des amis bénévoles, enfin voilà, qui me viennent en aide. Et
moi, j'étais curieux de savoir si votre témoignage, il s'inscrit à l'intérieur d'un ouvrage plus large où se rencontrent différents types de témoignages, donc à chaque fois avec des histoires singulières. Mais j'imagine qu'ils doivent faire ressortir des choses peut-être un peu plus générales. Est-ce que vous avez ressenti que vous viviez peut-être la même chose que d'autres parents en situation de handicap qui témoignaient dans cet ouvrage ?
Bah, je pense que... Enfin, étant donné les handicaps différents, je pense qu'on a des questions qui se rejoignent, c'est sûr. Après, selon le handicap, c'est pas forcément les mêmes parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Mais je pense que sur le global, oui, il y a les mêmes questions qui se rejoignent.
Le sentiment d'avoir manqué d'un accompagnement avant l'arrivée de l'enfant, c'est par exemple
quelque voilà, chose. Le jugement, je pense qu'on l'a tous ressenti, hein, qu'on soit handicapé mental, moteur ou sensoriel. Je pense qu'à un moment, c'est sûr, même si ce n'est pas tout le temps du début, je ne dirais pas à la fin parce que ça continue encore, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on a eu cette question-là, ça c'est sûr, cet obstacle.
Marianne Divet, l'idée donc c'était peut-être aussi dans ce livre de faire rentrer les témoignages en dialogue, peut-être les uns avec les autres.
Bah c'est en fait on à travers tout ce cheminement qu'on a fait nous au niveau de l'équipe aussi parce que il y avait ça pose question, c'est vrai. Donc dans les rencontres diverses qu'on a fait, on a ressenti ce que disait Magali tout à l'heure, des questions communes en fait. Des besoins qui remontaient et qui étaient un peu semblables d'accompagnement, de formes de prestations sans doute à mettre en place, et de professionnels qui accompagnent donc le besoin chez ces professionnels en fait de dire mais il est largement temps qu'on puisse avoir une évaluation de ce qu'on fait. Et que ce que l'on fait soit rendu visible, en fait. Et qu'on puisse... Parce que dans les témoignages qu'on a eus, on a l'impression, effectivement, que les gens avancent, mais si la société n'avance pas en même temps, eh bien, on a très rapidement, en fait, 10 ans, c'est pas long, l'impression de tourner en rond et de refaire, en quelque sorte, les mêmes choses, parce qu'il faut que la société, effectivement, se mette en route et que les politiques prennent des décisions qui permettent d'aller plus loin. Dans le Nord, par exemple, les Papillons Blancs du Nord ont, depuis 10 ans, mis en place tout un maillage, ils appellent ça comme ça, tout un réseau, en fait, qui permettent aux déficients intellectuels, parents qu'ils suivent, d'être complètement inscrits dans la société locale et de profiter au même titre du bien commun. Il ne s'agit pas de recréer... tous les témoignages qu'on a eus, c'est vraiment de cet ordre-là. Il ne s'agit pas de créer une PMI spécifique pour les parents en situation de handicap ou des écoles pour des enfants dont les parents sont en situation de handicap. Mmh, c'est pas ça. Mmh. C'est vraiment que le bien commun qu'on a tous en partage s'adapte à ces situations de handicap. Donc, on en parle déjà beaucoup sur une accessibilité aux bâtiments. Bien sûr. Il n'y a pas que les bâtiments, il y a d'abord les personnes. Et donc, comment la formation des personnels... Enfin, je veux dire, ce n'est pas si compliqué que cela à mettre en place, en fait, puisque ces biens-là existent.
Et quel type d'accompagnement vous semblerait aujourd'hui pertinent, si on entre peut-être un peu dans le détail de cet accompagnement? Quel suivi est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui? Là, par exemple, on soulignait avec Magali que l'important pour elle, par exemple, ça avait été d'être accompagnée avant l'arrivée de l'enfant. Aujourd'hui, comment on pourrait imaginer un accompagnement qui soit pertinent pour les différents types de handicaps qui existent? Est-ce que vous auriez peut-être des exemples à nous donner?
On a, dans le livre, les personnes qui témoignent parlent de la façon dont s'est fait l'accompagnement des Papillons Blancs du Nord, ils sont très peu à accompagner les groupes de parents. Ils se retrouvent une fois par mois en groupe, ils appellent ça le lundi des parents, donc en groupe de parole, ils font la cuisine ensemble. Enfin, là, le jour où je suis allée, il y avait une séance de massage. Mais en discutant avec les parents, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont tous inclus dans des activités de centre social, de centre culturel, enfin de l'école, enfin, etc. Donc, les éducateurs, en quelque sorte, sont là pour accompagner, par exemple, pour la première rencontre avec le directeur ou la directrice de la maternelle, et ensuite accompagnent autant que faire se peut et que se manifeste le besoin. Puis à un moment, il y a l'arrêt de l'accompagnement, mais on accompagne le parent dans la préparation à la réunion de parents à laquelle il va assister, mais il y va seul. Mm-hmm. Mais parce qu'avec l'école, il y a ce contact un peu privilégié de l'éducateur et de l'école, et puis petit à petit, ça se met en place. Il y a une des vidéos, par exemple, qui montre le lien, enfin, comment ça s'est passé avec une une petite fille qui terminait son CM2 au moment où on a fait la vidéo, avec 18 de moyenne. Et ses parents sont déficients intellectuels. L'éducateur expliquait comment, très bien, comment s'est mis en place le maillage. C'était mal parti. Cette petite fille en CP ne finit son CP, elle ne sait pas lire, finit son CE1, elle ne sait toujours pas lire. Et puis il y a des discussions, et puis et en fait discussion avec la petite fille, discussion avec les parents, et qui tourne autour du conflit de loyauté. Peut-être tu veux pas réussir parce que tu sens bien que tes parents c'est pas ça quoi. Et mais tu as le droit de réussir, tu as le droit de dépasser tes parents. Et le père s'est saisi de ça pour aller voir l'instit et lui dire « Je refuse que ma fille redouble, je refuse qu'elle passe en CE2, je veux qu'elle redouble. »
D'accord.
Et c'est de là que cette gamine, avec du soutien scolaire, avec tout ce qui existe pour tout le monde, elle peut aujourd'hui rentrer en sixième et faire la fierté de son père, ça c'est clair.
Vous parliez de groupe de parole juste au début de cette réponse. C'est ce que, pour les auditeurs qui ont peut-être jamais entendu ce terme, c'est ce que vous nommiez tout à l'heure la père-émulation, donc.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce groupe de parole, là, par exemple, on faisait le bilan avec les éducateurs de ce qui s'était passé pendant l'année. On était au mois de juin, donc est-ce que les lundis des parents satisfaisaient les parents qui étaient là? Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer? Effectivement, des échanges se font, ils se donnent des tuyaux, des trucs et des astuces. Un peu ce que Magali évoquait tout à l'heure avec la seringue, OSAPPH à Paris. Il y a également des groupes de parole. Julien Tourte, donc, le papa aveugle là, qu'on a interviewé, disait bien que finalement, sa situation de handicap lui apportait quelque chose de luxe par rapport à d'autres pères, parce qu'il avait eu la possibilité, en tant que papa en situation de handicap, de faire partie d'un groupe de parole pour préparer l'arrivée de sa petite fille et d'apprendre à être papa. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, au SAPPH, sur des revendications de parents qui venaient à la PMI non en situation de handicap, je dirais, eh bien, ses parents disaient bah, « c'est quand même pas juste, nous aussi, on aimerait bien avoir des groupes de parole ». Et c'est ça qui est fantastique, c'est que, en fait, cette possibilité à un moment, de s'attarder sur un sujet de société, un problème, effectivement, réel, eh bien, on s'aperçoit que ça profite à tout le monde et ça rentre dans le bien commun. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas.
Mais en tout et pour tout, ça pourrait être pour ça, en fait, hein, dans les entreprises, il y a plein de choses qui pourraient être faites pour tout le monde.
Et vous participez, Magali, à des groupes de parole, ou vous avez participé à des groupes de parole?
Moi, j'ai participé au groupe de parole de Paris, là, au SAPPH, quand je suis allée les voir avec Marianne. Et c'est vrai que c'est intéressant. Hein.
C'est là-bas que donc, vous appreniez des petites tactiques, des petites astuces?
Oui,
vous...
voilà.
D'accord. Et vous n'avez pas continué ce type de pratique?
Disons qu'il faut se rendre à Paris. Donc,
Ah, parce que justement, on parlait de maillage aussi du territoire. Mmh. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Rennes aujourd'hui?
C'est un petit peu ça qui a fait la pointe de colère de Magali, de revenir de Paris et dire « Mais maintenant, c'est bien Paris, mais qu'est-ce que je vais faire à Rennes ?»
D'accord.
Quand on va revenir? Et c'est en ça que les croisements, comme on disait tout à l'heure, les croisements de portraits et de témoignages montrent qu'ailleurs, il y a des choses qui existent, qui ont prouvé de leur efficacité, et que, je dirais avec un peu de bonne volonté, l'appui d'élus, certes, mais on pourrait effectivement faire des choses similaires. Enfin, voilà pourquoi on aimerait d'ailleurs, en 2015, suite aux demandes de toutes les personnes qu'on a interviewées pour le livre, faire se croiser ces savoirs, faire en sorte que des liens se créent. On a créé sur le site un blog qui s'appelle « Un parfum de victoire » pour que d'autres qui mènent peut-être des expériences un peu similaires tout seul dans leur coin, se disent bah, « Tiens, je peux partager mon expérience, je peux dire que j'existe et que je fais quelque chose. » Et on aimerait pouvoir mettre en place quelque chose comme un forum, colloque, rencontre entre les usagers, les professionnels, pour qu'il y ait une mutualisation des savoirs et qu'on puisse aller plus loin.
Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on revienne sur deux témoignages qui m'ont particulièrement plu dans cet ouvrage. Donc, déjà, celui de Richard Fernandez, dont j'ai beaucoup aimé le récit des premiers flirts. J'ai trouvé ça assez poignant. Et puis, bien sûr, celui d'Alison Lapper. Donc, c'est une artiste britannique dont vous dites, sur le site internet d'Histoire Ordinaire, qu'elle fait définitivement exploser tous les tabous en fin d'ouvrage. Je me tourne vers vous, Magali, peut-être pour avoir votre point de vue. Qu'avez-vous pensé un peu de ce témoignage d'Alison Lapper, qui a l'air d'être un petit peu peut-être excentrique ou du moins tout à fait original?
Ouais, je pense qu'il faut des gens comme elle pour faire avancer les choses. Elle est motivée, elle est volontaire et de toute façon, si on n'a pas ça, je pense qu'on n'avancera pas. Donc ce sont les bases du moteur, on va dire, pour que les choses évoluent.
Pour situer peut-être nos auditeurs, de quel handicap est-elle Enfin, quelle déficience a-t-elle?
Je ne sais pas le terme exact, mais elle n'a pas de bras et pratiquement pas de jambes. Mm-hmm. C'est un peu comme, pas une femme tronc, mais un peu ça. Ouais.
Et sa pratique artistique, c'est un peu sa particularité, c'est qu'elle...
Elle peint avec la bouche, mm-hmm. mais elle fait également... elle utilise la photo, les collages. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a bien... Le choix de la photo de couverture, c'était un... J'ai fait le choix, et je crois que j'ai fait le choix toute seule, parce que ça me plaisait beaucoup. On y voit Alison Lapper qui tient un pinceau dans la bouche. Mmh. À côté d'elle, il y a son fils Paris, qui a 15-16 ans aujourd'hui, mais sur la photo a peut-être 5 ans, 6 ans.
Ah d'accord, il a 15-16 ans aujourd'hui. Ouais, bah, 15, sur la photo, c'est, oui, c'est ça, c'est un petit garçon de 5 ans.
C'est un petit garçon adorable, blond, mignon à croquer, et qui a lui aussi le pinceau à la bouche, mais tient également le pinceau avec la main.
Oui, on le voit. Là.
Et je trouve que cette photo, elle est symbolique. C'est-à-dire que dans les tabous qu'on entend, un enfant né de parents en situation de handicap et forcément lui-même en situation de handicap. Bon, même si c'est pas physique, il le sera certainement, parce que son milieu ne le développera pas. Enfin, bon, ça, je reprends les tabous qui sont dits autour de ça. Et en fait, là, cette photo-là, elle démontre le contraire, parce que Paris, il n'est pas à moins 1, il est à plus 2, puisqu'il sait peindre avec la bouche, ce qu'il a appris de sa mère, et il sait peindre avec les mains, ce qu'il a appris de la société, c'est-à-dire de l'école, tout bêtement, quoi. Donc, pour moi, c'est très symbolique de ce que pourrait être un avenir proche au niveau de la parentalité des personnes en situation de handicap.
Est-ce qu'elle apporte peut-être des précisions sur la façon dont son parcours s'est déroulé en Grande-Bretagne, puisque là on parle beaucoup de la France, mais on sait que les politiques publiques du handicap sont pas forcément les mêmes partout en Europe. Est-ce que vous auriez peut-être 2-3 précisions par rapport à son parcours en Grande-Bretagne?
Elle a dû se débrouiller tout le temps toute seule. Et elle a plié en quelque sorte la société à son bon vouloir. Je dirais. Parce que, on la voit à l'âge de 18-19 ans, elle apprend à conduire parce que des ingénieurs britanniques ont mis au point une voiture lui permettant de conduire. Donc, vous imaginez la voiture où, avec ses pieds, elle met le contact. Et puis, ce sont ses épaules qui, à droite et à gauche, touchent comme des coussinets qui lui permettent de diriger la voiture, tourner le volant. Qu'elle ne tourne pas, bien évidemment, à droite et à gauche.
Et dans la façon dont elle est devenue maman, elle a été accompagnée là-bas ou...
Oui, on la voit, on peut retrouver sur Internet des vidéos où on la voit s'entraîner. Parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elle s'entraîne à se maquiller. Elle s'entraîne à avoir ce bébé. Et donc, elle est avec des médecins, kinés, etc. Et puis, elle est là avec un poupon du même poids en fait que le bébé qu'elle va avoir, et elle prend son petit, comme l'explique d'ailleurs Richard Fernandez, un peu avec sa bouche comme une maman prend prendre son chaton, et elle fait des essais, et si je le prends là, il va basculer de ce côté-là, mais si je le prends de cette façon-là, peut-être que, etc. Et donc elle travaille énormément à chaque fois sur comment adapter son corps, et elle demande à des experts de l'aider si nécessaire.
Vous parliez de Richard Fernandez, c'est un peu la tête brûlée aussi de cet ouvrage.
il vient en tête Parce que j'ai trouvé extraordinaire d'avoir un grand-père.
Ouais, moi, j'adore la sincérité avec laquelle il parle de ses 20 ans, de ses premières expériences avec les femmes et de ses premiers coups de cœur aussi. Qu'est-ce que c'est de tomber amoureux, il ne connaissait pas, etc.
Il est comme Alison Lapper, c'est-à-dire... je ne sais pas, j'imagine et je me tournerai volontiers vers Magali pour savoir un peu plus, mais c'est un petit peu comme si il disait, ces deux personnes, elles disaient, mais dans le fond, j'attends rien de la société. C'est à moi de prouver que je suis en mesure d'être, et je suis un humain comme tout le monde, donc j'agis comme tous les humains, donc je tombe amoureux. Alison Lapper a fêté, il y a quelques week-ends, là, ses 50 ans, et elle a une tchatche absolument incroyable, et toujours prête de tomber amoureuse, entre autres du jeune journaliste qui l'a interviewé, toujours prête à faire mille choses comme quelqu'un qui pète de vie, quoi, en fait, je dirais.
Aborder peut-être aussi la question du DVD qui accompagne ce livre. Est-ce que vous pourriez peut-être me le présenter ? Est-ce que ça reprend, en fait, en version vidéo, les témoignages qui sont dans le livre ?
Alors, l'idée du DVD, elle est née d'abord de l'idée que... Et donc, Magali a beaucoup contribué à cette idée-là, dans le sens où on est... Nous qui ne vivons pas cette situation de handicap particulière, on est curieux de savoir un peu comment ça se passe. Moi, j'étais curieuse, Magali, de dire, mais comment tu fais pour changer le bébé ? Comment tu sais que Clara est dans tel endroit ou tel endroit ? Et tu m'as donné des indices et je me suis dit, mais ça m'aide à comprendre, ça m'aide aussi à apprivoiser notre relation, enfin à nous apprivoiser mutuellement, de la même façon que, comme dans toute relation humaine, on a besoin, hein, c'est ce que disait Saint-Exupéry, on a besoin de ce temps de s'apprivoiser, mais en même temps, je ne connais pas ce que c'est que de vivre en ne voyant pas. Donc, en étant avec toi, en m'expliquant comment ça se passe, je comprends mieux, je m'apprivoise, quoi. Et donc, c'est...
Le coup du transat.
Exactement, c'est... Magali rappelle le coup du transat où j'étais descendue chercher Clara qui commençait un peu à pleurer pour monter au premier étage et Magali était en train de faire des photocopies et... Pour redescendre, c'était évident que c'était moi qui allais redescendre Clara sur son transat, puisque moi je savais descendre les escaliers. Et tout d'un coup, j'entends une voix dans les escaliers qui me dit « Mais Marianne, tu peux descendre les photocopies et la paire de ciseaux, je crois qu'on va en avoir besoin, ça va aller !» Et puis Magali avait bien évidemment dans les mains Clara dans son transat. Donc,
tu me l'as raconté qu'après.
et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te prend, quoi ? Je veux dire, mais qu'est-ce que tu sais rien, quoi ? Alors, apprends.
Ça, c'était important pour vous, Magali, qu'il y ait ce DVD qui accompagne, c'est peut-être comme une marque aussi de pédagogie envers les gens qui n'y connaissent rien ?
Bah, y a plusieurs choses. C'est que déjà, quand on ne peut pas lire le livre, qu'on ne voit pas, donc c'est bien le DVD. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Et vous avez fait aussi pour les personnes malentendantes, vous avez fait le langage des signes.
On a fait le sous-titrage des vidéos.
Le sous-titrage, voilà.
Ce à quoi Magali fait référence, c'est qu'effectivement, on s'est dit, ce livre, il est tout public. Mais ça veut dire quoi, tout public ? Ça veut dire que tout le monde peut y accéder, qu'on aime lire ou pas, qu'on sache lire ou pas, qu'on puisse lire ou pas, qu'on puisse entendre ou pas. Il faut que tout le monde puisse avoir accès. Et donc, dans le DVD, c'est pour ça qu'il est long, il y a 9 vidéos qui apportent des témoignages sur le quotidien des professionnels, des personnes en situation de handicap, dans leur vie de parents. Et l'enregistrement par des conteurs et des conteuses de tous les textes. Ce qui donne, et ça aussi, ça a été une découverte, ce qui donne aux textes une profondeur et une ampleur différente de la façon dont on le lit, nous, chacun pour nous, silencieusement. Là, on entend des voix rondes, des voix qui se mettent à la place des personnes dont on fait le portrait, qui donnent une autre dimension, en fait. Donc on a vraiment tout à y gagner de faire tout public.
Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Donc, moi, j'aurais souhaité vous demander s'il s'agissait aussi d'un livre dont les conclusions revenaient peut-être sur la loi de 2005, parce que vous avez mentionné tout à l'heure quel regard porter sur le handicap. Donc, c'était la conférence, les deux journées qui étaient organisées au mois de janvier à Rennes aux Libertés. Donc, la loi de 2005 qui porte sur la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Est-ce que ce livre donne peut-être des pistes pour penser la question de la parentalité des personnes en situation de handicap ?
C'est ce qu'on espère. Après, c'est les lecteurs, lectrices, professionnels. Nous, notre visée, c'était qu'en fait, ce livre-là soit à la fois pour les personnes qui vivent la même situation, les professionnels qui sont en accompagnement et qui vivent de façon solitaire parfois aussi cet accompagnement, mais aussi l'entourage, la famille, les amis, le milieu social et ces professionnels qui, dans un premier temps, auxquels on ne pense pas, qui sont le directeur ou la directrice de l'école, le médecin généraliste, les puéricultrices de la PMI, l'animateur du centre de loisirs, qui jour ou l'autre peut effectivement accueillir un parent en situation de handicap, est un peu décontenancé parce qu'il aura lui aussi besoin d'être apprivoisé. Et le livre est là pour ça. C'est au niveau du histoire ordinaire, c'est un peu notre petite contribution à ce qui est un sujet de société, notre contribution citoyenne.
Et bien merci à toutes les deux pour votre participation à l'émission. Vous étiez bien dans Enjeux de santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes, en compagnie de Marie-Anne Divet, journaliste chez Histoire Ordinaire, et Magali Guigaud, dont le témoignage est à retrouver dans Un parfum de victoire, ouvrage paru chez Histoire Ordinaire Édition. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Encore une fois, mesdames, je vous remercie d'être passées par ici.
Merci à vous.